Il est 8h23 à Paris, voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, les Paradise Papers.
Oui, on attend avec impatience la dernière livraison du Monde cet après-midi. Le Monde qui s'apprête à publier donc de nouvelles révélations sur les pratiques financières des grands de la planète. En effet, après les Panama Papers en avril 2016, voici les Paradise Papers, des documents pour la grande majorité issus d'un cabinet d'avocats des Bermudes, Appleby, des documents mis au jour par l'ICIJ, Consortium international de journalistes d'investigation, et ses partenaires médias, dont Le Monde, donc, en France, le New York Times, aux États-Unis, ou encore le Guardian, en Grande-Bretagne. Des documents qui révèlent les montages internationaux d'optimisation fiscale de certains riches de cette planète dans les paradis fiscaux. La plupart de ces montages sont légaux, mais pas très moraux. Et surtout, pointent les échos, cette nouvelle vague de révélations risque de provoquer des séismes politiques au Canada, où des proches de Justin Trudeau sont mis en cause, au Royaume-Uni, avec des détails sur les investissements offshore de la reine. Aux États-Unis, surtout, les documents montrent en effet des liens financiers entre Wilbur Ross, le ministre du Commerce, et Sibur, groupe pétrochimique russe, dont le gendre de Vladimir Poutine, Kirill Shamalov, est actionnaire et membre du conseil d'administration. Wilbur Ross aurait reçu de Sibur 68 millions de dollars depuis 2014, et ce malgré les sanctions économiques américaines envers la Russie. Le montage financier utiliserait une succession de sociétés dans les îles Caïman. Et puis, note encore les échos, et puis les journalistes d'investigation de ICIJ mettent en lumière l'optimisation fiscale à grande échelle des grandes entreprises mondiales telles que Nike, Glencore ou encore Apple. Voilà, plus de détails Arnaud tout à l'heure dans Le Monde, ce sera en début d'après-midi et nous en reparlerons bien évidemment demain.
Évidemment. À la une également, la Catalogne. Carles Puigdemont a été libéré hier soir sous condition par la justice belge.
Reste que celle-ci devra se prononcer sous quinzaine sur la suite à donner au mandat d'arrêt européen lancé vendredi par la justice espagnole. L'homme qui avait annoncé l'indépendance de la Catalogne est tenu tête à Madrid et poursuivi, rappelons-le, en Espagne pour sédition, rébellion et détournement de fonds publics. Alors, s'interroge l'Union après la corrida catalane. Les arènes de Bruxelles ont-elles été fatales à Carles Puigdemont, le président destitué sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et qui s'est rendu à la police fédérale belge, n'est plus que l'ombre d'un héros séparatiste. Puigdemont rentre dans le rang parce qu'il ne tient plus aucun levier d'action. Toutes ces péripéties ne referment pas un dossier sensible dans une conjoncture politique incertaine en Europe, mais elles confirment que l'État demeure le meilleur organisateur de la vie de la nation. Attention, préviennent les dernières nouvelles d'Alsace. Puigdemont n'est pas à sous-estimer. Madrid s'est empressé d'en faire un séditieux. De ce fait, le catalan se met en position de mener la campagne électorale à venir hors d'Espagne, avec la particularité dans ce cas de se déclarer à la fois martyr et pondéré. Non, estime le républicain lorrain. Depuis son exil bruxellois, l'ancien numéro 1 catalan aura beaucoup de mal à rapiécer sa majorité compte tenu des critiques que suscite à Barcelone sa fuite en Belgique. Puigdemont a peut-être sauvé temporairement sa liberté, mais il n'a pas encore gagné son pari fou. Finalement, relève la montagne, le scrutin régional du 21 décembre en Catalogne sera décisif. Ce sera un autre référendum qui ne dira pas son nom. Si les anti-indépendantistes gagnent, alors ils compléteront la victoire juridique, qui fut facile, par une victoire politique. Si les indépendantistes demeurent majoritaires, leur victoire politique sera telle que leur défaite juridique comptera pour peu.
Arabie Saoudite, l'extraordinaire purge, c'est ainsi que le Figaro qualifie la vague d'arrestation décidée par le nouvel homme fort du pays.
À 32 ans, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, dit MBS, se lance dans un grand ménage, s'exclame le Figaro. Un grand ménage qui frappe aussi bien les princes corrompus de la famille Saoud que de potentiels adversaires politiques. Par un décret signé samedi soir par son père, le roi Salman, créant une agence anticorruption, 4 ministres et une trentaine d'anciens hauts responsables ont été arrêtés, tandis que dans la grande ville portuaire de Jeddah, des avions privés étaient cloués au sol pour empêcher certaines personnalités de fuir le royaume. Du jamais vu à la cour des Saouds, où l'on a toujours privilégié la transaction plutôt que le bâton, mais avec MBS, pointe le Figaro, le nouvel homme fort de l'Arabie, cette clémence est désormais révolue. Qui plus est, pointe Libération. MBS avait procédé en septembre à l'arrestation de religieux conservateurs, de prédicateurs très influents, peu avant d'annoncer l'autorisation de conduire pour les femmes, car dans le même temps, le jeune prince héritier avance un programme de libéralisation de la société saoudienne qui lui vaut le soutien de la jeunesse dans un pays où les moins de 30 ans comptent pour plus de la moitié de la population. Avec Mohamed Ben Salman, le rythme des bouleversements est vertigineux. On relève encore Libération. Il ne se passe pas de semaine sans qu'une annonce majeure vienne bousculer l'économie ou la société, sans parler de la guerre au Yémen ou de la crise avec le Qatar. La plupart des gens ici sont tantôt épatés, tantôt effrayés par ces secousses, estime un observateur avisé cité par Libé. Même ceux qui soutiennent par principe les réformes et l'ouverture de la société prônée par MBS trouvent qu'il va trop vite et dans trop de directions à la fois.
Enfin, ce dossier du Parisien sur le krach annoncé du diesel.
En effet, constate le Parisien, longtemps chouchou des automobilistes français, le diesel n'est plus en odeur de sainteté. Sur le marché de l'occasion, les véhicules qui roulent au gasoil se vendent de moins en moins bien. Et pour ce qui est du neuf, alors que le diesel représentait quasiment trois quarts des immatriculations en France en 2012, selon le comité des constructeurs français d'automobiles, cette part est passée sous la barre des 50% l'an dernier. Et cette tendance devrait se poursuivre. Du coup, pointe le Parisien, du coup, les constructeurs français, grands spécialistes du diesel, vont devoir s'adapter et passer progressivement à l'hybride et à l'électrique.
Merci Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver sur RFI.fr.